peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal de vivre.
Alors Marielle, on a déjà évoqué, en parlant de la retraite, la question du chômage. Alors ça peut être un peu absurde, mais non, parce qu'en fond, quand on parle de retraite, on parle de travail, et aujourd'hui, on doit parler aussi d'emploi. Et donc, il y a effectivement ce problème, il manque des emplois. Et souvent, on entend dire, mais c'est absurde de relever l'âge de la retraite alors que les jeunes n'ont pas de travail, ne trouvent pas de travail. Et c'est vrai qu'on a l'impression, alors c'est peut-être un calcul sommaire et pas très juste de dire, bon, puisqu'il manque des places de travail, réservons-le plutôt aux plus jeunes que de se traîner à des postes où on n'arrive pas vraiment à travailler parce qu'on n'est plus tout à fait en forme.
Bah effectivement, de fait, les personnes plus âgées sont de plus en plus exclues de leurs emplois. Mais c'est vrai que par ailleurs, plus il y aura d'emplois à se partager, plus sera difficile l'entrée sur le marché du travail des jeunes. Et de nouveau, là, on assiste à des nouveaux coûts qui vont, arriver de ce genre de politique, parce que des jeunes qui n'ont pas de travail, eh ben, il faut bien que, ça va représenter des coûts sociaux. Donc, ces coûts sociaux-là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'avenir? Est-ce qu'il ne faut pas penser un petit peu à la globalité et pas seulement à cette catégorie de 62 à 65. C'est vraiment un non-sens. On ne doit pas jouer les travailleurs les uns contre les autres, mais on doit avoir un tout petit peu quand même un bon sens par rapport à la répartition du travail qui se fait aujourd'hui.
Par ailleurs, il y a aussi, on l'a évoqué, la question non seulement de l'emploi, mais du travail et des conditions de travail. Or, on voit, on le lit de plus en plus, que les gens qui ont du travail travaillent dans des conditions de plus en plus dures, que ce soit comme employé ou même comme cadre. Le stress au travail a augmenté et les pathologies liées au travail ont évolué, mais elles représentent un poids important. Donc on a l'impression là aussi d'une certaine contradiction, parce que ce rythme, de plus en plus, d'ailleurs on le voit dans les annonces, on demande des gens entre tel et tel âge, et après on peut plus. Il y a certaines professions où on n'arrive plus après un certain âge, parce que le travail est trop dur aussi.
Alors bon, c'est sûr qu'au niveau de l'emploi, aujourd'hui, on assiste à une espèce de compression, la technique du citron sur les employés, on presse et on jette, et c'est sûr que ça a des graves conséquences sur le futur de ces personnes-là et l'ensemble de la société. Alors, c'est vrai qu'avec ce thème de la VS, on touche au problème de base qui est l'attitude des acteurs économiques par rapport à cette masse de travailleurs, et c'est vrai qu'il y a une tendance plus souvent à gâcher le potentiel plutôt qu'à chercher à le mettre en valeur. Et là, certainement qu'il y a des forces économiques qui disparaissent simplement parce qu'on casse les gens, ça c'est évident.
Mais moi, disons, je suis très perplexe. Enfin, je ne suis pas perplexe par rapport à la votation du 27, où j'ai déjà d'ailleurs voté. Pour moi, c'est évident qu'après 62 ans et même à 60 ans, je me mettrai à la retraite. Mais disons, en fait, les arguments des référendaires me semblent tellement évidents et c'est tellement partagé par la population que je n'arrive pas à comprendre la position de ceux qui veulent relever l'âge de la retraite à 65 ans, mais on parle déjà même de la relever à 67, et cela pour tout le monde, disons. L'idée commence à circuler. Je n'arrive pas à comprendre vraiment quels sont les objectifs. Alors pour toi, tu dis c'est un objectif à court terme, ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas remettre le système en question, ils ne veulent pas qu'on touche à leur intérêt. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus derrière d'autres types d'intérêts, et cette fois-ci peut-être moins liés à l'AVS, mais liés cette fois-ci aux caisses de pension?
Alors bon, ça c'est fort possible.
Au deuxième pilier, ouais, donc.
Il ne faut pas oublier effectivement que l'AVS, c'est un système solidaire qui implique, je veux dire, l'ensemble de la population à contribuer pour les uns et les autres, alors que le deuxième pilier, c'est un système de capitalisation où on capitalise effectivement l'argent pour soi et où les caisses en font usage pour faire des investissements, etc. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir effectivement, est-ce qu'il n'y a pas effectivement une volonté de démanteler l'AVS en tant que telle et d'aller de plus en plus vers des systèmes, non pas uniquement du deuxième pilier, parce que ça reste de la prévoyance obligatoire, réglementée, notamment dans le cadre des investissements, mais par rapport au troisième pilier, qui sont des caisses proposent des prestations aux gens pour leur garantir le minimum que les gens n'ont plus dans les autres
pays. Donc des caisses privées à ce moment-là.
Alors, effectivement, c'est interrogateur parce qu'on sait que de toute façon, les milieux qui s'opposent aux assurances sociales, pour eux, l'idée, ce serait de promouvoir une assurance chômage privée, etc. Donc, est-ce que c'est vers ce genre de choses qu'on va ? Il faut effectivement se poser la question. Et ce genre de revirements vont effectivement... de plus en plus créer un désintéressement par rapport à ce premier pilier qui va devenir de plus en plus insignifiant et puis coûteux. Quoi,
voilà, donc de toute façon, les gens vont devoir prendre des assurances privées parce qu'ils n'y arriveront plus à vivre avec, en fait, avec cet argent. Déjà, on n'arrive pas, mais disons encore moins...
Alors, les gens qui effectivement le peuvent, oui. Et puis sinon, les autres, ils devront se suffire des miettes laissées par l'assistance publique et les autres fonds de survie, entre guillemets. Hein. Mais moi, je pense qu'effectivement, il y a une volonté d'affaiblir ce premier pilier. Il y a quelque chose effectivement qui est là derrière.
Et puis effectivement, tu l'as mentionné, les caisses de retraite, cette fois-ci le deuxième pilier, donc les caisses que tout travailleur paye à sa caisse de retraite, et que c'est un argent qui reste, et qui représente aujourd'hui des sommes faramineuses. C'est des économies entières, ça peut mettre en crise des économies entière. On peut peut-être rappeler que la crise au Mexique en 1994 a été provoquée entre autres par le fait que les fonds de pension américains, les Américains, certaines assurances ont retiré leurs fonds de pension et ça a précipité une crise nationale, une crise économique dont on ressent encore 4 ans après les effets désastreux. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un désir quelque part de garder ce capital immense et de le garder le plus longtemps possible pour continuer les manœuvres spéculatives.
Alors, très, très certainement, là, je ne sais pas trop, si ce n'est répondre que il y a effectivement des fonds qui dorment et qui sont pas attribués directement pour les personnes en âge de la retraite. Donc ces fonds-là, il y a effectivement des réglementations qui permettent certains investissements et pas d'autres, mais il y a un nœud là derrière, effectivement, il y a un nœud très important. Il y a aussi tout le problème que ces caisses elles-mêmes sont gérées de façon privée et que pour renverser ce fonctionnement, penser un nouveau système de fonctionnement entre les caisses, ça va remettre en question aussi le fonctionnement de ces caisses, c'est-à-dire l'argent qu'elles utilisent elles-mêmes pour tourner et puis les services qui sont liés à ça. Mais là, il y a un nœud et qui mériterait effectivement sur lequel il faudrait effectivement s'arrêter et pouvoir regarder un petit peu en détail. Et certainement que la volonté politique a fait tout pour éviter de se poser les questions là autour.
C'est clair qu'en tout cas, la majorité des gens, évidemment, ne pensent qu'à une augmentation d'impôts ou autre taxation qui leur tomberait dessus. Donc, ils sont très inquiets quant à leur mode de vie au quotidien, de voir encore les charges augmenter par rapport à beaucoup de gens dont les salaires officiellement diminuent par rapport à des charges qui augmentent par ailleurs. On a augmenté aussi l'assurance chômage, l'assurance participation perte de gains, etc. Ça commence à exister partout. Donc ça, c'est des discussions que vous avez ultra-économiques, comme par hasard, qu'on ne partage pas, qu'on n'explique pas aux citoyens et aux citoyennes moyennes qui ne cherchent pas à comprendre un petit peu ce qu'est le monde de l'économie. Et c'est vrai que ce n'est pas très simple à comprendre pourquoi on magouille d'une caisse de pension à l'autre, d'un capital à un autre. Ce n'est pas très évident, quoi. Moi, je pense que j'avais envie de te demander, Marielle, comment on discute des arguments affichés très ouvertement, par exemple, par certaines femmes. Christiane Brunner, en tant que conseillère aux États et coprésidente de l'Union syndicale suisse, disait « Moi, j'aime bien l'idée du relèvement de la TVA parce que ça veut dire qu'on fait participer tout le monde. Cet argent servira à la fois à l'assurance maternité, donc ça veut dire que les vieux seraient solidaires des jeunes, dans le cas présent. Et puis, cet argent peut servir aussi à soutenir l'AVS. Ça voudrait dire que cette fois-ci, c'est les vieux qui soutiennent... Les jeunes qui soutiennent les vieux. Est-ce que ça se discute?
Alors, le relèvement de la TVA se discute toujours, bien sûr, parce que c'est un impôt qui est reconnu comme impopulaire, hein, parce qu'il est posé pour toutes les bourses de la même manière. Effectivement, l'idéal, ce serait... de revoir l'imposition sur les revenus et sur les fortunes, où là on peut pondérer en fonction des moyens des gens. Donc la TVA, c'est parce que, entre parenthèses, il est entre guillemets, il est populaire pour la droite, hein, c'est-à-dire que c'est le seul la seule ressource qu'ils sont d'accord de manipuler, parce que elle touche pas directement des différents niveaux de revenus.
C'est Christiane Brunner qui le propose. C'est ça
oui,
qui est
oui,
un peu
mais
bizarre,
ça ne m'empêche pas d'être pas forcément, je veux dire, de nuancer les propos de Christiane Brunner. Uh-huh. Elle occupe une position. Nous, dans le collectif, on occupe
voilà,
une
c'est
autre.
Ce que je dis. Alors, comment se discute de choses comme ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir.
Alors effectivement, je crois que, bon, elle l'a dit aussi, mais elle ne le dit pas toujours, mais effectivement, nous, on maintient l'idée que la hausse de la TVA, c'est une chose, ma foi, c'est une solution, mais qu'il y en a d'autres, parce que ce n'est pas la solution qui nous convient le mieux. Et que c'est important de se poser la question de taxer d'autres, d'obtenir des taxes par d'autres moyens. On parlait des taxes sur les capitaux. On ne doit pas tout le temps taper le clou sur le quidam de tous les jours qui a juste son porte-monnaie et qui justement le voit de plus en plus se rétrécir parce que lui aussi contribue déjà aux charges sociales. Hein,
et en ayant l'air salaires. De dire que tout le monde est à pied d'égalité.
Voilà, justement.
Alors, égalité, justement, dernier chapitre qui nous fait être encore plus rouge de colère que d'habitude dans cette discussion-là. On va l'aborder, mais je vous propose d'écouter les Cranberries.
Thank you.
Les Cranberries dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Nous sommes en compagnie de Marielle Guinet, et qui est du collectif 14 juin, et Viviane et moi. Nous essayons de lui poser un certain nombre de questions pour éclaircir la question autour donc de l'initiative dite de rattrapage concernant l'AVS et en particulier le relèvement ou le maintien du statu quo pour l'âge de la retraite des femmes. Et nous en sommes à parler du chapitre égalité, puisque c'est un des arguments qui avait été avancé à l'époque de la 10e révision de l'AVS votée en 1994. Il faut aller dans le sens de l'égalité. Et aujourd'hui, c'est ce qui est rabâché par la droite et par Madame Ruth Dreyfus en personne, qui n'hésite pas à dire « Mesdames, si vous voulez l'égalité, ben, il faut faire ce sacrifice ». Alors, est-ce que nous sommes prêtes à faire ce sacrifice, Marielle?
Oui, je crois que c'est justement l'élément le plus faux du débat, c'est qu'on demande aux femmes de faire un sacrifice comme si ce sacrifice allait régler le problème du financement de l'AVS. Alors d'abord, parlons d'égalité. Il faut rappeler que c'est seulement en 81 en Suisse qu'a été inscrit dans la Constitution le principe de l'égalité entre hommes et femmes et qui a obligé ensuite à ce que les différentes législations prennent en considération ce principe. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, les travaux de la 10e révision de l'AVS se sont concentrés sur cette question d'égalité par le splitting et le bonus éducatif. Mais si on parle d'égalité, s'il y a effectivement des tentatives de créer des dispositions légales pour la mettre formellement en place, dans les faits, les femmes se trouvent encore dans des situations tout à fait inégalitaires par rapport à la situation des hommes, du fait du passé historique qu'on a, du fait aussi toujours de la répartition du travail rémunéré et non rémunéré entre hommes et femmes. Et on sait que ce sont toujours les femmes qui assument en grande majorité une partie d'éducation dans les familles. Donc, cela a comme résultat...
Plus la différence de salaire,
oui, alors justement,
etc.,
alors cela a comme une particularité, c'est que les femmes occupent majoritairement des endroits peu rémunérés, parce que c'est des places qui sont faciles à obtenir, parce que c'est des places où on peut faire du travail à temps partiel. Il ne faut pas oublier que le travail à temps partiel dans les milieux masculins, c'est un tabou, hein, c'est un peu pour les femmes. Donc si c'est pour les femmes, c'est pour les basses activités. Et au niveau de la présence des femmes dans les niveaux hiérarchiques, aux différents niveaux hiérarchiques du travail, on sait que plus on monte dans les niveaux hiérarchiques, moins on observe la présence de femmes. Donc effectivement, les salaires des femmes sont en moyenne inférieurs de 20 à 30% de ceux des hommes. Ce qui a comme conséquence non seulement des difficultés durant toute leur vie, hein, selon aussi comment évolue leur situation familiale, mais aussi au niveau des rentes de vieillesse. Donc à la fois au niveau de la rente AVS, on parle de rente AVS pleine, hein, de 1990 francs, mais toute personne n'a pas cette rente AVS, même si elle a travaillé pendant toutes ces années, parce que cette rente est aussi calculée sur la base des revenus acquis pendant ces années-là. Donc là, on a une première inégalité, c'est qu'au niveau même de l'AVS, on n'aura pas forcément le plein. Et en plus, le deuxième pilier qui est censé renforcer cette différence, dans le cadre des femmes, il est souvent très, très faible, voire insignifiant, parce qu'il se calcule sur la base du salaire coordonné, c'est-à-dire à partir d'un certain niveau de revenus, on cotise au deuxième pilier. Donc, de fait, les femmes, aujourd'hui, quand elles arrivent à la retraite, ont des retraites plus basses. Donc, dire on va rétablir l'égalité, relevons l'âge de la retraite, c'est comme si tout le reste était déjà acquis, alors qu'on n'est pas du tout dans cette situation-là. Donc là, il y a un mensonge tout à fait énorme.
Mais d'un autre côté, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas totalement en disant, oui, d'accord, dans les faits, l'inégalité perdure, mais est-ce que la loi ne doit pas... on ne doit pas nécessairement inscrire cette inégalité dans la loi, puisque, au contraire, la loi devrait tendre à l'affaiblir. Alors, c'est évident que la situation, elle est telle qu'elle est, mais si on inscrit cette chose dans la loi, on risque aussi de la scléroser. Et il me semble que à partir de toute la discussion qu'on a eue au début, la réflexion, c'est plutôt de dire il faut que l'âge de la retraite soit baissé pour tout le monde.
Exactement. L'égalité, il ne faut pas la faire au détriment des femmes. Et s'il y a égalité à résoudre au niveau de la VS, c'est effectivement rebaisser l'âge de la VS.
Est-ce qu'à ce moment-là, au niveau du référendum, pourquoi est-ce que le comité référendaire n'a pas proposé tout de suite cette chose peut-être un peu provocante aujourd'hui, puisque c'est vrai que tout le monde parle de crise? Pourquoi il n'y a pas eu cette proposition qui est quand même un projet social plus excitant que simplement dire inscrivons dans la loi une inégalité de fait?
Bon, je crois que comme toujours en Suisse, on a toujours fait les choses par paliers, hein. Ça demande beaucoup de tact pour réussir à introduire certaines idées au niveau de notre législation. Je crois qu'avant tout, au moment où cette initiative a été mise sur pied, l'idée c'était de sauver ces 62 ans coûte que coûte. Et de toute façon, il y a la discussion par rapport aux retraites à la carte était déjà lancée et elle se faisait sans empêcher les discussions qui allaient se faire ultérieurement à ce propos. Et au moment de la dixième, donc ces 62 ans tiennent jusqu'à que la 11e révision soit mise sur pied, parce que la 11e révision justement doit régler le problème du financement et de l'âge. Donc c'est une mesure transitoire en fait, et elle est indicative. Pourquoi aussi c'est important de voter pour cette initiative aujourd'hui, c'est que c'est un énorme signal donné aux protagonistes de la 11e révision actuellement, ceux qui travaillent dessus, pour dire non, on ne doit pas aller vers un relèvement général de l'âge de la retraite, on doit le rabaisser parce que ça répond à une situation de marché de l'emploi, etc., telle qu'on a déjà parlé jusqu'à présent.
Donc c'est un petit pas.
Donc c'est effectivement un petit pas.
Un petit pas, mais qui est lourd de conséquences.
Qui est lourd de conséquences et qui s'inscrit aussi dans ce débat de la retraite à la carte.
Alors dans toute cette question sur l'AVS et l'égalité, c'est vrai que la position de notre conseillère nationale Ruth Dreyfus, la seule femme dont on s'attendrait à ce qu'elle défende les femmes, nous a beaucoup choqués. J'ai pu lire dans la tribune de Genève du 6 septembre « Je n'ai pas trahi les femmes », dit Ruth Dreyfus. Et pourtant, beaucoup de femmes et beaucoup de militants se sont trahis par Ruth Dreyfus, en tout cas sur cette question.
Oui, effectivement, je crois qu'on a tous été ahuris par cette attitude politique qu'elle a eue. Le Parti socialiste, dont elle est issue, rappelons-le, a dénoncé. Ensuite, dans le cadre du rassemblement que nous avons fait le 3 septembre, nous avons également adressé une résolution à Ruth Dreyfus en lui exprimant notre indignation par rapport à son attitude et en lui disant notamment que elle n'a pas soutenu, elle n'envisageait peut-être pas de soutenir cette initiative de rattrapage, au moins qu'elle s'abstienne de parler tel qu'elle le fait sur la 11e révision. La 11e révision est en phase consultative. C'est un geste politique bien moche d'arriver avec ces éléments-là aujourd'hui et de dire de toute façon, on va tout régler avec la 11e, ce qui n'est pas vrai. Donc là, effectivement, elle a une attitude qu'on ne comprend pas.
Vous ne la comprenez pas, mais est-ce qu'on pourrait essayer de la comprendre? Pourquoi est-ce que Ruth Dreyfus, qui avant d'être conseillère nationale, était une femme reconnue, militante, syndicaliste, appréciée, estimée par les mouvements des femmes et les mouvements associatifs, pourquoi, depuis qu'elle est conseillère nationale, elle s'écrase tellement?
Alors, je suis pas à sa place, c'est difficile de répondre, si ce n'est qu'effectivement, quand on est au pouvoir, c'est toujours différent. Hein. La position qu'on occupe nous oblige à avoir certaines attitudes, mais je pense que il y aurait quand même possibilité de se distinguer, chose qu'elle ne fait pas. Alors, elle a peut-être pas le courage, elle est peut-être beaucoup trop mise sous pression par l'entourage à Berne, ce qui l'empêche de se distancer et de de tenir bon face à certains projets qui sont ceux aussi du Conseil fédéral, hein, n'oublions pas. On la met devant parce qu'elle est, elle est chef du département des affaires sociales, mais il y a quand même l'ensemble du Conseil fédéral qui est derrière elle. Alors, je pense qu'elle arrive, qu'elle n'a pas cette force de se distinguer, de dire non, politiquement, on n'a pas à faire ce genre de choses-là. Donc, comment ça
mais
se passe?
Est-ce qu'il n'y a pas non plus un problème au niveau de la mobilisation des femmes? C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes, que ce soit une mobilisation dans la rue ou que ce soit le travail de lobby, c'est-à-dire de faiblesse organisationnelle des femmes. On a l'impression qu'effectivement, le Conseil fédéral et le Conseil national se foutent totalement des femmes parce qu'ils savent que ça ne représente pas tellement un danger pour eux.
Oui, moi je crois qu'effectivement au niveau de la mobilisation des femmes, il y a un problème qui est réel. D'autant plus qu'aujourd'hui, surtout plein de niveaux, les femmes se font gratter un certain nombre d'avantages.